bientôt, je vais me sentir ministre. Alors oui, le père m'a demandé de traiter un sujet qui, je dois bien le dire, n'est pas ma tasse de thé. Je préfère traiter des sujets qui sont moins sensibles, des choses sur l'histoire, hein, qui sont passées il y a des centaines d'années, comme ça, il n'y a rien de difficile à dire, ou bien des sujets théologiques, puisque j'ai quand même pas mal travaillé sur ces questions-là. Mais il est vrai que dans la situation actuelle de l'Église, eh bien le sujet qu'il m'a demandé de traiter n'est pas sans intérêt, puisqu'il s'agit en effet de réfléchir sur la situation de l'Église, notamment le problème des clergés, des scandales pédophiles, du problème aussi de l'homosexualité d'un certain nombre de membres du clergé, et d'une série de réflexions autour de ces questions morales et de ces questions ecclésiales. Donc vous comprenez que c'est un sujet un peu délicat, parce que déjà on parle de quelque chose qui s'allie tellement à la fois le visage de l'Église et les âmes de ceux qui y sont confrontés, les victimes évidemment de ce genre d'actes de la part de membres du clergé, mais aussi les chrétiens qui doivent affronter le mépris que un certain nombre de personnes vont et les insultes qu'un certain nombre de personnes vont jeter sur les clercs, sur l'Église, les prêtres eux-mêmes, non pas ceux qui sont coupables, mais l'immense majorité innocente qui voit leur sacerdoce sali par tout ça. Et donc voilà, c'est un sujet qui est vraiment très important parce que quand on veut faire œuvre d'apostolat, eh bien ça n'est pas facile dans la situation actuelle de discuter de ces questions-là et eh bien de dire, ben voilà, l'Église apporte le message du Christ, c'est la voie, la vérité, la vie, et fatalement, eh bien, en face de nous, on a des gens qui vont nous parler de ça. Donc, il semble impossible de faire l'impasse sur ce sujet dans le contexte actuel. Et même pour nous, nous avons besoin, je pense, d'être confortés dans notre foi, confortés dans notre conviction que l'Église est notre mère, dans le sens que c'est elle qui nous donne la vie spirituelle par l'intermédiaire des prêtres. Donc, parce qu'on est là au cœur quand même de notre foi, le salut ne se conçoit pas en dehors de l'Église. Vous connaissez la phrase « hors de l'Église, point de salut ». Cette phrase, elle est vraie. Évidemment, l'Église, c'est un bien précieux que nous sommes appelés à défendre, c'est un peu l'objet de cette conférence. C'est pour cela que le Père a insisté pour que le titre de la conférence soit « Pour l'honneur de l'Église », et ça me semble bienvenu. Alors, en introduction, pour continuer l'introduction, je voudrais vous citer une phrase de la première lettre aux Corinthiens de saint Paul qui dit « Frères, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. L'Écriture le dit, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. » Alors pourquoi est-ce que je cite ce passage de saint Paul ? Eh bien parce qu'à chaque fois, dans ces scandales de pédophilie ou d'homosexualité de la part de prêtres, eh bien il s'agit de ceux qui veulent détruire le temple de Dieu. Le temple, c'est l'Église, ce sont les âmes, l'âme de tous les hommes baptisés. On peut le trouver étonnant, mais en réalité, ça se comprend pourquoi saint Paul enchaîne en parlant de la sagesse d'ici-bas, la sagesse du monde. Parce qu'en réalité, bien souvent, le monde est plein de sages, des sages à la sauce du monde, justement, des sages non chrétiens, qui va nous expliquer comment l'église de Dieu doit être édifiée. Donc vous avez plein de commentaires autorisés un peu partout de gens qui nous expliquent comment l'église devrait être, alors qu'eux-mêmes ne sont pas chrétiens, donc on n'en a strictement rien à faire en réalité. Mais aussi des sages chrétiens, ou en tout cas qui se disent chrétiens, et qui veulent aussi d'ailleurs expliquer à Dieu comment son église doit être édifiée. Si hier j'ouvre, je ne sais pas moi, prier au hasard dans la foule, la croix, comme journal, eh bien j'ai plein de gens, très très intelligents sûrement, qui expliquent comment est-ce que l'église de Dieu devrait être. Donc, le Saint Paul insiste bien, voilà, cette sagesse du monde est folie devant Dieu. Et Dieu prend les sages au piège de leur propre habileté. Au milieu de l'océan de boue qui se déverse sur l'Église, que ce soit de la part de ceux qui devraient la défendre, comme de la part de ceux qui n'en sont pas membres, eh bien, la parole de la Sainte Écriture doit nous conforter. Dieu n'abandonne pas son Église et il prend les faux sages au piège de leur habileté. Alors nous allons voir qu'il y a une volonté claire, perverse, démoniaque et ancienne de détruire l'Église de l'intérieur comme de l'extérieur. Les abus dont nous parlons, qui blessent des âmes profondément, qui les éloignent de Dieu, qui défigurent le visage du Christ, ils ne viennent pas de rien. Ce ne sont pas juste des actes de personnes individuelles, ce sont ça aussi, bien sûr. Mais ce ne sont pas juste voilà, des gens qui ont cédé à leur faiblesse, un moment d'égarement. Il y a quelque chose de plus derrière, qui est un problème qu'il nous faut saisir à bras-le-corps. Donc, le but de la conférence sera double. D'une part, cerner l'ampleur du problème, essayer d'en comprendre les causes. Et enfin, dans la deuxième ou troisième partie, selon comment on prend mon plan, mener une réflexion sur ce que nous devons faire et comment nous devons nous positionner par rapport à toutes ces questions-là. Parce qu'au final, sans vouloir faire du marxisme, ce qui n'est pas vraiment mon genre, eh bien, à un moment donné, qu'est-ce que nous faisons? Quelle va être notre ligne de conduite, concrètement, face à toutes ces questions-là? C'est quand même ça qui est très intéressant aussi pour nous. Alors, en première partie, l'Église face au scandale sexuel. Si on écoute les médias, ou peut-être tout simplement les conversations de non-catholiques sur le sujet, moi je suis enseignant dans un collège public, et si je m'assois en salle des professeurs et que j'entends parler mes collègues, c'est ce type de propos qu'on peut entendre. En gros, tous les prêtres sont potentiellement des prédateurs, en devenir ou en acte. Pourquoi ? Tout simplement parce que, c'est sûr, c'est certain, de toute façon, le célibat sacerdotal, c'est n'importe quoi, c'est forcément tous des frustrés et ils vont naturellement tomber dans ce genre de, choses. Et c'est exactement ce qu'on peut lire dans un livre qui est sorti récemment, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Sodoma, un titre extrêmement élégant, et qui explique que dans l'Église, il y a deux catégories de clergés. Il y a ceux qui sont homosexuels revendiqués, et ceux qui ne le sont pas, ou plutôt ceux qui sont absolument contre l'homosexualité et qui en fait sont des frustrés qu'ils le sont sans le savoir. En gros, c'est la thèse du livre. C'est-à-dire que... Comment ? Donc en gros, voilà. Le clergé ecclésiastique, si vous êtes contre l'homosexualité, en fait, vous êtes un homosexuel refoulé. Et si vous n'êtes pas contre l'homosexualité, c'est parce que vous êtes concrètement, vous aussi, un homosexuel pratiquant, cette fois-ci, si j'ose dire. Donc voilà, c'est un peu le propos général du monde actuel à propos de ces questions-là. Alors, face à ces affirmations, évidemment, ils vont remettre en cause tout ce qui fait le cœur de l'Église sur les questions morales. Le célibat sacerdotal, évidemment. Le fonctionnement institutionnel de l'Église. C'est-à-dire qu'ils vont dire, la hiérarchie de l'Église, la manière dont c'est organisé, c'est une sorte de mafia visant à protéger ses actes. Et puis, enfin, troisième affirmation qu'ils vont porter, c'est la morale chrétienne elle-même produit ça. Toute cette frustration, je parle avec leurs mots, dans le domaine sexuel, eh bien, provoque naturellement des déviations qui vont tourner aux choses affreuses que on peut rencontrer. Alors, il y a deux choses qu'on va distinguer dans ces propos. D'une part, il y a la question, malheureusement bien réelle, des déviations sexuelles au sein de certains membres du clergé. Je ne vais pas vous expliquer ici que tout ça n'existe pas. Ça serait débile de ma part et ça serait un mensonge. Donc, ça ne sera pas mon but. Mais par contre, je vais tenter au moins de le circonscrire. C'est-à-dire de tenter d'en mesurer l'ampleur. De quoi on parle concrètement? Quelle quantité? Quelle proportion? Ça sera mon premier point. Mon deuxième point, ça sera d'essayer d'en tirer des conclusions. Quelles sont les causes de tout ça? Quelles sont les causes des déviations? Est-ce qu'on peut aussi les placer chronologiquement dans l'histoire? Est-ce que c'est un truc qui a toujours existé? Ou alors est-ce qu'il y a un moment historique autour de ces questions-là? Donc ça aussi, ça sera intéressant. Et ce n'est pas anodin. S'il y a un moment historique, c'est qu'a priori, la cause de ces déviations n'est pas lié à l'institution de l'Église ou à la morale chrétienne. Si à un moment donné, ces problèmes n'existaient pas, ou alors étaient extrêmement faibles, et qu'ensuite, il y en a beaucoup, c'est bien qu'il s'est passé quelque chose qui explique le passage de « ça n'existe pas » à « il y en a beaucoup ». Donc ça aussi, il faudra essayer de le comprendre. Alors d'abord, quelques chiffres pour cette question des déviations au sein du clergé. Est-ce qu'on peut mesurer l'ampleur du phénomène? Au niveau mondial, c'est impossible d'avoir des chiffres sur cette question-là. Parce que pour avoir des chiffres, évidemment, il faut une analyse statistique, il faut des témoignages concordants, il faut un suivi scientifique sur plusieurs décennies. Et concrètement, ce type de choses ne se fait en gros que dans les pays développés. Ce qui fait qu'on a des chiffres assez précis, notamment pour les USA et pour la France. Et je vais m'attarder aux chiffres des USA et de la France sans rentrer dans la question du monde entier, parce que d'une part, moi, je n'ai pas réussi à trouver des informations sur ça. Il y a sûrement des livres très spécialisés qui en parlent, mais j'avoue que je ne les ai pas eu en main. Mais voilà, j'ai des choses assez précises sur la France et les USA, donc je vais m'en parler de ça, et puis ça nous donnera une petite idée, je pense, de ce qui se passe au niveau mondial. Peut-être. Alors, pour les USA d'abord. Entre 1950 et 1992, on a une étude qui date de 2002, qui établit que 4% des 110 000 prêtres des USA sur cette période ont été accusés d'inconduite dans le domaine sexuel. Sachant que par inconduite dans le domaine sexuel, ça peut aller de simples, si j'ose dire, paroles inconvenantes vis-à-vis d'un mineur, à un viol. Donc on a un éventail assez large, on n'a pas le détail de la proportion de choses très graves et de choses pas graves, d'autant qu'il serait dangereux, je pense, de commencer à tenter d'établir une hiérarchie quand on parle de choses vis-à-vis de mineurs. Montrer un film pornographique à un mineur, c'est un viol. De toute façon. Allez, on se reconcentre. La petite bête mangera pas la grosse. Donc voilà, donc ces 4%, ça représente 4392 prêtres. Sur une durée donc de 42 ans. Pour 10 700 victimes identifiées. Je dis bien identifiées parce que la difficulté dans ces questions-là, c'est toujours d'avoir des chiffres précis. Il y en a forcément qui n'ont pas été identifié. On sait que une personne qui est victime de ce genre de choses a du mal à le dire, même 30 ans plus tard. A fortiori quand le coupable est un prêtre. Parce que le poids est beaucoup plus lourd à porter. Donc 4%, Je dirais que 5% est probable, hein, si on enlève ceux, si on rajoute ceux que, dont on n'est probablement pas au courant. Donc 5%, c'est beaucoup. C'est beaucoup, on parle de plus de 5000 prêtres. Donc ça n'est pas rien. Et là, je pourrais me lancer dans une grande bataille statistique pour comparer la proportion à celle des civils qui ne seraient pas prêtres, essayer de voir si c'est plus ou moins dans le domaine du clergé ou pas. Et je vais un peu le faire parce que ce sont des choses qui sont intéressantes quand même, mais je veux quand même dire que ça ne résout pas notre problème. On va le voir, hein, oui. Ces problèmes-là sont plus présents chez les non-prêtres que chez les prêtres. Mais heureusement. C'est-à-dire que même s'il n'y en avait que 10, ça serait tout aussi choquant. Évidemment, là, la masse, 5000 prêtres sur 50 ans, ce sont des chiffres forts. Mais la bataille statistique a quelque chose d'inhumain et peut-être un peu de non-chrétien. Si je commence à dire « Oui, mais attendez, regardez, à côté, c'est pire », c'est petit comme argument, c'est pas un argument par le dessus, voyez. Donc je vais quand même le faire un petit peu pour qu'on ait des éléments. Concrètement, on estime que entre 5 et 10% des adultes ont été victimes dans leur enfance de quelque chose à caractère sexuel. Entre 5 et 10% des adultes dans le monde. Là, on est sur des statistiques mondiales, ce qui signifie qu'entre 5 et 10% de la population a commis ce genre d'acte. Parce que s'il y a entre 5 et 10% de victimes, il faut bien qu'il y ait entre 5 et 10% de coupables.
Sauf si une personne a fait...
Alors, évidemment, sauf si une personne en a fait plusieurs. Sauf qu'un des problèmes qu'on a, c'est que 95% des actes sont commis par un membre de la famille. Quelqu'un de proche. Donc, en réalité, il y a des cas, effectivement, où on va trouver 50 victimes. Hein. Mais souvent, on parle d'une petite quantité de victimes pour un coupable. Une, deux. Hein. Donc, on est plutôt sur ce genre d'éléments-là. Donc, voilà, on pourrait crier cocorico, voilà, il y a eu 4-5% de prêtres et ça pourrait être le double pour les membres de la société civile. Mais vous comprenez bien qu'on a du mal à se satisfaire de ça en ce qui concerne les USA. Pour la France, c'est un peu différent. Et là, on pourrait peut-être crier cocorico, si j'ose dire, dans notre détresse. Depuis 1970, avec les chiffres qu'on a, il y aurait eu 72 cas de prêtres pédophiles. Ce qui représente 0,5% des prêtres en exercice sur cette période. Donc là, on est sur des chiffres beaucoup plus bas. Alors, attention, là encore, il y en a qu'on ne sait pas. Donc le 0,5, c'est peut-être 1%, c'est peut-être 2%. C'est dur à dire. C'est dur à dire. Ma mère me racontait un témoignage d'une de ses cousines qui a eu à subir ceci dans le diocèse du Var il y a une quarantaine d'années, justement, et le prêtre a juste été déplacé de paroisse. Et ça n'est jamais sorti au grand jour. Donc voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas. Alors néanmoins, il y a quand même quelque chose qui est très important, et j'y reviendrai, hein. Pour la France, on parle, allez, entre 0,5 et 1%. Pour les États-Unis, on parle de 4 ou 5%. Ça laisse quand même entre 95 et 98% du clergé qui n'est pas concerné par ces questions-là. Ça, c'est quelque chose qu'il est important de dire, parce que quand on se retrouve face justement aux gens, on va dire, bah, attendez, de quoi vous parlez là ? De combien de personnes vous parlez ? De quel cas vous parlez ? Donc c'est très très important. Je reviendrai sur ça un peu plus tard. Alors, le moins qu'on puisse dire en tout cas, c'est qu'on est loin d'un phénomène qui est propre au clergé. Et donc on peut tout de suite écarter la question du célibat sacerdotal comme cause de ceci. Si 97% des prêtres qui sont tout autant dans le célibat ne font pas ça, je ne vois pas bien comment on peut attribuer au célibat de faire ça. Ça me semble très très compliqué. Et 96% des abus sexuels sur mineurs sont le cas de laïcs, au minimum 96%. Laïcs qui généralement ne sont pas suspects de retenue dans le domaine sexuel. Oui.
Vous avez dit 96% des agressions sont...
se font dans le cadre laïc.
Okay, d'accord.
Au minimum. Donc voilà, on peut tout de suite écarter le cas le problème du célibat sacerdotal. D'ailleurs, il n'y a pas réellement de psychologue sérieux qui fait un lien, même parmi les plus athées des athées, entre le célibat et ces problèmes-là. Alors, évidemment, pour nous, il reste compliqué d'en parler, d'autant que l'ambiance générale est bien clairement quand même au lynchage de l'Église, quoi qu'il arrive. Donc, les affaires sont utilisées non pas pour faire disparaître un mal, mais bien souvent pour remettre en cause justement le fonctionnement de l'Église. Alors, comme je l'ai dit, c'est un peu compliqué donc de faire ces comparaisons chiffrées, elles ne sont pas très satisfaisantes, mais de toute façon, c'est inutile. C'est inutile parce que même si on peut se satisfaire de cette moindre culpabilité du clergé par rapport au monde, ça n'enlève pas justement la souffrance que tout catholique éprouve quand il entend parler de ses affaires. Les âmes sont perdues, les victimes sont tuées dans leur chair et dans leur âme, et la haine de l'Église du Christ s'installe. Donc, je lisais un article récemment sur l'explosion du nombre de gens qui envoient des courriers aux évêques pour demander à être rayés des registres de baptême. Donc, il y en a tous les ans. On est une société athée qui rejette le christianisme. Il y en a tous les ans. Mais on est, sur les deux dernières années, sur une augmentation de fois 100 ou 150%. Donc, y a vraiment eu un sentiment de scandale, alimenté aussi, renforcé par les médias. Je prends le cas de la France. Vous voyez, 0,5% de prêtres concernés, c'est pas du tout ce qui apparaît dans le langage médiatique. Dans le langage médiatique, c'est tous pourris, tous couverts par leur hiérarchie, c'est un nid de pervers. Donc forcément, ça a des conséquences sur les âmes. Et malgré ça, eh bien, l'Église du Christ, elle reste sainte et immaculée. Il n'est pas inutile de rappeler les raisons de la sainteté de l'Église. Elle est sainte par sa doctrine, elle est sainte évidemment d'abord par son fondateur, elle est sainte par l'action de l'Esprit-Saint, qui la vivifie. Elle est sainte par le salut qu'elle transmet aux hommes. Et elle est sainte par la présence des saints, des martyrs. En soi, rien ne peut atteindre, ne peut faire disparaître cette sainteté de l'Église. Par contre, le message qu'elle transmet, la grâce qu'elle communique, eh bien, tout ça peut être obscurci dans le cœur des hommes par les mauvaises actions de certains de ses ministres. Et quelques considérations chiffrées ne changeront pas grand-chose à cela. Alors, avant de continuer, je voudrais juste faire une petite annexe sur deux cas très médiatiques dont vous avez entendu parler. Le premier, c'est le cas du cardinal Barbarin, à Lyon, donc, qui n'a aucune idée de ce dont je vais parler. Le cas du cardinal Barbarin, a priori, vous en avez tous entendu parler. Alors, dans ce cas, ça ira assez vite, mon explication, hein, vous connaissez sûrement l'histoire. Le cardinal Barbarin a été nommé en 2004 primat des Gaules, donc archevêque de Lyon. Et en 2007, il entend parler du cas d'un prêtre, hein, le père Prénat, qui a abusé de l'innocence des scouts dont il avait la charge entre 1971 et 1991. Donc pendant 20 ans. Pendant 20 ans, à partir de l'âge de 26 ans, donc en fait quasiment dès son ordination. Donc, la chose a été sue de l'évêque de l'époque au fur et à mesure que les faits se déroulaient. Et il n'a pas été réduit à l'état laïc. Alors à partir de 1991, il semble qu'il ait cessé ses agissements, mais il est resté dans le diocèse de Lyon. y compris avec des fonctions qui l'amenaient à entrer en contact avec des enfants. Il n'y a pas eu de cas après 91, mais néanmoins, voilà, cette situation, objectivement, est compliquée à admettre. Alors, qu'est-ce qui est reproché au cardinal Barbarin ? Et là, pour le coup, on rentre quand même un petit peu dans l'injustice, parce que quand le cardinal apprend ces faits en 2007, le père Prénat donc, n'a pas récidivé depuis 91 et les faits sont prescrits. Et donc là, la question que se pose le cardinal, et il n'y a pas de plainte qui a été portée contre le père. La question que se pose le cardinal, c'est la suivante. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dis à la justice ? Ou est-ce que je ne le dis pas ? Les faits sont prescrits. Si je dis à la justice va juste dire « Rentrez chez vous, il n'y a rien à voir, c'est prescrit, on ne peut pas condamner. » Par contre, si je le dis à la justice, le scandale éclate. Que ce soit pour le père ou pour les victimes qui, visiblement pour l'instant, n'ont pas voulu rendre la chose publique, ce n'est pas souhaitable. Donc je ne dis rien. Donc je ne dis rien. Et ce qui se passe en fait, c'est que quelques-unes des victimes, oui.
Je n'ai pas compris quand vous dites que la justice dirait que l'affaire est prescrite.
En fait, au moment où les faits ont été commis, où les actes ont été commis, le délai de prescription pour les actes de pédophilie était de 15 ans. C'est-à-dire que 15 ans après les actes, eh bien, l'attaque en justice n'est plus possible. Donc, c'est ce qu'on appelle la prescription, concrètement.
En sorte que ça arrive pile 15 ans après la fin de l'acte. Parce que, enfin, je vois 2007, c'est grosso modo 15 ans après 91.
Oui, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Alors, je ne pense pas que là, il y a eu une machination pour que la révélation se fasse 15 ans après les actes, concrètement. C'est pas comme ça que ça s'est passé, à mon avis. Mais, en tout cas, il se trouve que ça a été la situation à ce moment-là. Et donc, le cardinal Barbarin ne révèle pas la chose, ce qui, objectivement, je pense, est compréhensible. Mais, par contre, ce qui est moins compréhensible, c'est que, eh bien, il continue à confier au père Prénat des fonctions en lien avec les enfants. Et là, c'est un peu plus difficile à admettre, parce qu'évidemment, même si, en soi, il n'y a pas eu de récidive depuis 91, le principe de précaution est là. Le principe de précaution est là, c'est un sujet trop sensible pour prendre le risque, en quelque sorte. Donc, probablement qu'il aurait dû écarter le père Prénat, comme le prévoit la discipline de l'Église. Le droit canonique prévoit justement la mise à l'écart de ces prêtres dans ces cas-là. Et certaines des victimes, donc à partir de 2010, se rendent compte que le père est toujours en situation d'être avec des enfants. Je rappelle qu'il est très âgé à ce moment-là, le père Prénat. Il a passé 65 ans, quand même. En 2007, il avait 26 ans en 71. Je ne vais pas faire le calcul en tête parce que je ne suis pas prof de maths, hein, mais certains sont sûrement beaucoup plus doués que moi dans la salle pour faire le calcul. S'il a 26 ans en 71, quel âge a-t-il en 2007
62.
Ouais. Bon. Il n'est plus dans sa prime jeunesse. Hein, mais en soi, des pervers de 62 ans, ça existe aussi. Donc, il aurait fallu probablement, je pense par prudence, que le cardinal Barbarin fasse ceci. Et il ne le fait pas, ce qui fait que certaines victimes finissent par faire éclater l'affaire au grand jour. Entre-temps, la loi française a changé, le délai de prescription est passé de 15 à 25 ans.
Oh, ça va, quoi.
Et oui, parce qu'il y a une sensibilisation sur ces questions-là, et on a augmenté la durée du délai de prescription.
Mais là, c'est essentiel, c'est la loi doit pouvoir prévoir ça.
On est bien d'accord. C'est pour ça que le cardinal Barbarin, en soi, la première fois qu'il a été jugé pour cette question-là, le procureur de la République, c'était en 2016, a dit non, mais c'est n'importe quoi, il n'y avait aucune raison qu'il révèle les choses, donc on ne condamne pas. Et puis il y a eu un appel, il y a eu un deuxième procès, il va y avoir un troisième procès encore, l'affaire n'est pas terminée.
Sachant que quand on change la loi pour une prescription, ce n'est pas rétroactif.
Et justement, non. Normalement, ça n'est pas rétroactif. Mais dans ce cas-là, ils l'ont rendu rétroactif.
Non, mais.
Mais en soi, ça, franchement, je m'en fiche. Que la personne soit finalement jugée 20 ou 25 ans après, alors qu'elle n'avait pas été qu'à l'époque c'était 15 ans, c'est pas mon problème. Ça me choque pas, objectivement. Du point de vue du cardinal Barbarin, évidemment, C'est compliqué parce que lui, il s'est basé sur la loi de l'époque. On peut lui reprocher quelque chose qu'on ne pouvait pas lui reprocher. Mais voilà. On est sur ce type de situation-là. Alors, derrière cette affaire du canal Barbarin, qu'est-ce qui est attaqué ? Concrètement, ce qui est attaqué, c'est, un ecclésiastique a voulu cacher ses faits. La conclusion qu'en tirent les gens, c'est l'Église veut cacher ses faits. L'Église veut cacher ses faits. J'en dis pas plus pour l'instant. Je passe au cas suivant qui, vous allez le voir, lui est pour le coup franchement scandaleux. Ça touche aussi un personnage célèbre très important dans l'Église qui s'appelle le cardinal Pell. Qui le connaît ? C'était le numéro 3 du Vatican. Le cardinal Pell était le primat d'Australie, si on peut dire, le chef de l'Église catholique en Australie. PE2M. Alors là, par contre, pour le cardinal Pell, on nage en plein délire juridique. Je ne sais pas qui connaît l'histoire, mais je pense moins de monde. Le cardinal a été accusé pour... Encore une araignée. Je pense que si tu fais ça, elle va partir. Les araignées sont des êtres bénéfiques, très bons pour la nature. Non, c'est pas la question des protéines. Je continue. Donc, dans le cas du cardinal Pell, il a été accusé d'avoir imposé, des faveurs sexuelles à deux enfants de cœur en 1996. Les faits se seraient passés comme ça, d'après l'unique témoignage que nous avons sur la question, une des deux victimes présumées. À la suite d'une messe pontificale, la procession de sortie se déroule et les deux enfants de cœur font les clowns comme 95% des enfants de cœur. C'est une accusation gratuite, j'en conviens. Le cardinal Pell se met en colère, attrape les deux enfants de cœur en question, les amène dans la sacristie, les gronde et là, apparemment, leur impose, d'après le témoignage de l'un d'entre eux, une faveur sexuelle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une sacristie au sortir d'une cérémonie religieuse. Généralement, il y a du monde. Et là, on ne parle pas d'une sacristie, d'une petite chapelle, quelque part, dans le Vaucluse, où il y a deux personnes qui passent. Et encore, si c'est une chapelle tradie, il y a un peu plus de monde. On parle d'une cathédrale suite à une messe pontificale impliquant une bonne vingtaine de servants de messe. Et il n'y aurait eu personne à la sacristie pendant un bon quart d'heure, juste au moment où le cardinal était seul avec ses deux enfants de cœur. Alors, une bonne vingtaine d'années plus tard, donc un des deux porte plainte, l'autre étant décédé, on ne saura jamais sa version des faits. Et il y a un premier procès, l'enquête se fait en secret, hein, l'Australie est très très secrète sur le fonctionnement de ses tribunaux, donc l'enquête se fait en secret, un premier procès a lieu, il y a un juré de 10 personnes qui est réuni, 8 concluent à l'innocence, 2 à la culpabilité, et le procureur décide d'organiser un deuxième procès. On n'a aucune information sur la manière dont le procès s'est déroulé. On n'a pas vu l'acte d'accusation, on n'a pas vu non plus l'acte de condamnation. La personne, la victime, n'a pas témoigné directement, mais uniquement par écrit, et il n'y a aucun autre élément de preuve que le témoignage de cette personne-là. Et les 10 jurés ont jugé qu'il était coupable. Jurés, en fait, qui ont été, c'est ce que je pense, et ça me semble crédible, tout simplement triés sur le volet. C'est que les jurés, normalement, sont tirés au sort, et vous savez, un tirage au sort, c'est très facile, quand il n'y a pas de transparence sur la manière dont ça se passe, c'est très facile de savoir, de désigner telle ou telle personne. Donc là encore, évidemment, il y a un appel qui a été... qui a été interjeté par le cardinal et ses avocats. Et donc, on verra concrètement ce qui va se passer derrière. Mais clairement, dans ce procès-là, ça semble être complètement à charge. Oui.
Et ça s'est passé quand, ce procès ?
La condamnation, là, celle dont je parle, a eu lieu en février. Là. Donc on est vraiment sur des événements extrêmement récents. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ces deux cas? Pour bien vous montrer qu'au-delà de la question réelle de ces cas d'abus sexuels, eh bien, il y a aussi manifestement une volonté du monde de taper sur l'Église, d'utiliser, là comme toujours, la faiblesse des chrétiens pour taper encore plus fort. On sait bien que ce qui fait la force du diable, c'est la faiblesse des chrétiens. Donc là, ça me semble très très clair. Alors, je reviens sur le fil de mon propos, sur l'analyse des incidents, si je puis dire, des phénomènes d'abus sexuels. Et j'ai là devant moi un petit tableau qui est très intéressant. Malheureusement, j'aurais peut-être dû vous le photocopier, mais un petit schéma, ça viendra mieux qu'un long discours.
Je suis désolé. Hein. Non, non.
Alors, le schéma est un schéma qui a pour but de montrer l'évolution du nombre de cas aux États-Unis entre 1950 et 1990. C'est toujours tiré du même rapport. Et donc l'intérêt, c'est qu'on a une évolution année par année du nombre de personnes qui ont recensé ce genre de cas ou déclaré ce genre de cas et du nombre de prêtres qui ont été accusés pour ça. Donc ça commence en 1950 et ça se termine en 2005 pour les chiffres les plus récents. La courbe fait ça. La première courbe, ça va être le nombre d'atteintes, en tout cas d'accusations. On est à peu près sur ça, avec une pointe, allez. 1980. Ça, c'est les incidents, et puis le nombre de prêtres accusés. Hein, et bien on a aussi une courbe qui, évidemment, ressemble beaucoup, même si elle est moins haute. On est plutôt sur quelque chose comme ça. Ça, c'est le nombre de prêtres accusés sur ces années. Alors, si on regarde un petit peu cette courbe, on se rend compte donc qu'il y a une augmentation rapide à partir de 1955 et une chute encore plus rapide à partir de 1985. Oui. La bleue, c'est les nombres d'atteintes, en tout cas d'accusations d'atteintes, et la rouge, le nombre de prêtres concernés par ces accusations.
Donc la bleue, c'est de manière générale
tout confondu. Alors, la chute est très rapide à partir de 85. Je la prends toutefois un peu avec des pincettes. Elle est évidemment très importante, mais peut-être que dans 20 ans, on aura une courbe un peu moins aiguë parce qu'il y a deux phénomènes qui sont assez classiques. Il y a un retard de dénonciation des abus. C'est-à-dire que les gens ne vont pas tout de suite dire ce qui s'est passé. Parfois, ça prend 20 ans, 30 ans. Et puis, il y a aussi une diminution du nombre de prêtres depuis 40 ans. Alors, c'est un peu moins sensible aux USA, hein. Ils ont encore au minimum une stagnation du nombre de leurs prêtres. Alors, en Europe, vous savez que le nombre de prêtres chute très très vite, hein. Moins 2000 l'année dernière. Donc, ça va vite.
En France ou
en Europe, Alors, si c'était en France, il y aurait plus grand monde. Bon, on a beaucoup de prêtres africains hein, maintenant. Hein. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. En tout cas, voilà. On est sur une évolution quand même qui est assez rapide. Et ce type de courbe nous permet de se poser des questions sur pourquoi la courbe ascendante d'abord et ensuite pourquoi la courbe descendante. Comment expliquer cette évolution des abus? Alors, partant de cette constatation, le pape émérite Benoît XVI a publié il y a moins d'une semaine un texte justement sur ces questions-là. Je vous invite à aller le lire. Si vous voulez une traduction française à peu près correcte, pas fabuleuse, hein, parce que la personne qui l'a traduite. Donc c'est un texte qui a été écrit en allemand. Il a été traduit en anglais, puis de l'anglais traduit au français et vérifié avec le texte allemand. Donc c'est un petit peu... C'est pas toujours très très bien écrit d'un point de vue du français, on va dire, mais globalement ça se tient. Et donc vous le trouvez sur le blog d'une personnalité qui s'appelle Jeanne Smith. Je sais pas si vous la connaissez. Elle est collaboratrice au journal Présent, au quotidien Présent. Ça s'écrit comme ça. Oups. manière extrêmement... Je crois qu'il y a un S à la fin. C'est quelque chose comme ça. Ça fait un peu nom d'emprunt, d'ailleurs. Alors, que dit Benoît XVI ? Eh bien, il identifie deux causes à cette évolution. Évidemment, la première cause, et qui, je pense, eh bien, vous saute un peu aux yeux quand vous regardez la courbe, c'est la chronologie. Qu'est-ce qui se passe entre 1950 et 1980 ? Alors, oui, mais non. Bien sûr, il y a ça. Mais enfin, c'est compliqué d'attribuer ça au Concile Vatican II. C'est même, je pense, complètement faux. Mai 68. La révolution sexuelle. En fait, à partir des années 50, vous avez une remise en cause générale de la morale judéo-chrétienne. Avec le développement, justement, de ce qu'on appelle, donc, entre guillemets, la libération sexuelle. Y compris avec l'idée que la pédophilie était jugé acceptable. On a des pétitions d'hommes politiques ou d'artistes dans les années 60-70 qui demandent la légalisation de la pédophilie vue comme une expression possible de l'amour. Donc, il y a cette ambiance-là, en fait. Je vous cite un passage du texte de Benoît XVI, hein, j'en citerai un autre ensuite encore, où il dit, voilà, tout commence avec l'introduction... Donc il parle de l'Allemagne, bien sûr, pour lui, prescrite par l'État et soutenue par lui, des enfants et des jeunes, aux réalités de la sexualité. En Allemagne, celle qui était alors ministre de la Santé, Madame Kate Strobel, fit réaliser un film où tout ce qui était jusqu'alors interdit de présentation publique, y compris les rapports sexuels, était désormais montré à des fins d'éducation. Ce qui au départ visait seulement à informer les jeunes, devait ensuite être accepté comme une possibilité généralisée. En Autriche, pareil, des résultats similaires furent atteints avec la publication du Sexkoffer. Ça m'a l'air intéressant, ça encore. Une valisette controversée de matériaux d'éducation sexuelle utilisés dans les écoles autrichiennes à la fin des années 80. Des films pornographiques se répandirent, etc., dans les cinémas de gare. Jusqu'en France, jusqu'en 1975, eh bien, les films X, interdits au moins de 18 ans, si vous préférez, eh bien, sont autorisés dans les salles classiques. Donc, de nos jours, normalement, ce type de choses-là est réservé à des endroits bien spécifiques. Bon, Internet a encore changé la donne, mais jusqu'en 1975, on peut aller dans un cinéma avec des grandes affiches. Mon père me racontait qu'il était allé voir un film innocent et il y avait une bande-annonce pour un film pornographique juste avant. Donc, t'amènes tes enfants, voir, j'exagère un peu, mais t'amènes tes enfants à voir Bambi, et c'est pas tout à fait Bambi qui passe ensuite. Donc voilà, on était dans cette situation-là. Alors, évidemment, ça concerne le monde, mais malheureusement, ça va concerner aussi l'Église. Et c'est la deuxième chose que dit Benoît XVI, et dans sa bouche, ça a quand même une importance particulièrement forte. Il parle d'un effondrement de la théologie morale catholique jusque dans les séminaires. Le climat des séminaires s'était radicalement effondré. Création de clubs homosexuels, cohabitation avec les femmes, des évêques organisant la projection de films pornographiques pour rendre les séminaristes soi-disant résistants aux tentations. Avec derrière cette idée que il n'y a pas de vérité en morale, c'est-à-dire que ce qu'on a appelé, qui s'est développé dans les années 50, 60, 70 et même encore maintenant, hein, ce qu'on appelle la morale circonstancielle, c'est-à-dire que ce qui est bon ou mauvais dépend des circonstances. Il n'y a pas d'acte bon ou mauvais en soi. Ça, c'est évidemment, c'est absolument pas catholique, hein, on est bien d'accord, mais il n'empêche que vous avez des centaines de théologiens catholiques moraux qui ont exposé ce genre de thèse, oui. Oui, c'est le relativisme complet. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors évidemment, le climat d'un séminaire face à ce genre de choses, ça a un petit peu changé par rapport à ce que c'était qu'un séminaire dans les années précédant tout ça. Le Saint-Siège, dit-il, avait connaissance de tels problèmes, mais sans être informé précisément. Et ensuite, il rajoute, deuxième problème qu'il y a eu, eh bien, le critère pour la nomination des nouveaux évêques a été la conciliarité. Ce qu'on veut dire par conciliarité, c'est être compatible avec le concile, mais le concile, en fait, vu d'une manière très simple, hein, dès que c'est une critique vis-à-vis de la tradition, alors on est conciliaire. Donc voilà, on est sur ce type d'ambiance-là dans l'Église, dans les années 50, 60, 70, et même encore après, parce que tout ça n'est pas loin de la terminer. Hein. Les plus fortes attaques qui se portent actuellement contre l'Église, elles se font de l'intérieur de l'Église, par des évêques et des cardinaux. Donc voilà, c'est ça le problème. Alors, pourquoi tout ça dans l'Église à cette époque-là? Qu'est-ce qui a provoqué? C'est pas comme si magiquement d'un coup les gens s'étaient dit en 1960, allez, on change tout. Il y a forcément une cause à tout ça, une cause historique. Alors il y en a plusieurs. La première qui est très intéressante, c'est qu'on sait maintenant que dans les années 30, l'URSS a envoyé plus d'un millier de communistes, athées, pour devenir clercs. Et de l'intérieur, bouleverser ou tenter de bouleverser les fondements de l'Église. Et évidemment, ben, dans les années 30, c'était des gentils séminaristes. Dans les années 60-70, il y en avait qui étaient évêques. Après 30 ou 40 ans de carrière, s'ils n'ont pas fait de vagues, c'était sûrement des gens brillants, intelligents, parce que je pense qu'a priori, ils n'ont pas choisi les plus débiles du KGB pour faire ce genre de choses. Et donc, forcément, il y a eu une infiltration communiste, et on en voit les conséquences encore maintenant. Dans les années 70, des évêques français défilent avec la CGT le point levé en scandant la révolution. Donc, c'est un autre monde hein, pour nous. C'est un autre monde. Mais on voit quand même que là, il y a une volonté perverse, hein, quelque chose de vraiment bien concret, de venir détruire de l'intérieur le catholicisme, l'Église du Christ. Et puis, deuxième chose, eh bien, voilà, c'est la tentative de la part de nombreux clercs de changer la théologie morale de l'Église pour la rendre plus audible dans le monde moderne. Et après tout ça, eh bien, la troisième étape se joue aujourd'hui avec ces attaques contre l'Église et la morale chrétienne. Alors, que tirer de tout ça? Eh bien, bien sûr, ces abus, ces déviances homosexuelles sont une tristesse, elles blessent l'Église, elles détruisent des vies humaines, des vies spirituelles. Mais la solution, puisque maintenant qu'on a vu les faits, les causes, intéressons-nous aux solutions, la solution, ça n'est pas d'abattre l'Église et ça n'est pas de faire disparaître son enseignement. C'est quand même d'une hypocrisie totale de dire que c'est l'enseignement moral de l'Église qui cause tout ça, alors que ça fait 50 ans que cet enseignement moral de l'Église est rejeté par toute la société civile et mis en cause par une partie du clergé, hein, y compris le haut clergé. Donc ça n'est pas la disparition de l'enseignement de l'Église, ça n'est pas la disparition de l'Église qui va régler les problèmes, parce qu'encore une fois, les problèmes en question sont un problème de fond lié à notre société tout entière. Je rappelle que c'est pas la pédophilie, c'est pas l'Église catholique. Dans 97% des cas, ça n'a rien à voir. Donc c'est pas en faisant disparaître l'Église catholique que d'un seul coup tout va s'arranger. Ça me semble un peu complètement hypocrite de dire ce genre de choses. Alors, le diagnostic, le pape François a parlé de cléricalisme, en disant qu'une des solutions, c'était de faire disparaître le cléricalisme. S'il entend par là peut-être un manque de transparence des autorités de l'Église, de certains évêques, sur ces questions-là, ok. Évidemment, si... Oui. Pas encore. Pas encore. Comme je l'ai dit, il y a plutôt, voilà, il y a deux parties, la deuxième arrive bientôt. Il y a eu clairement une tendance à sous-estimer le problème depuis une trentaine d'années, jusqu'à, on va dire, le début des années 2000. Et donc, il y a eu des erreurs commises par les évêques. On peut parfois se demander d'ailleurs, dans certains cas, forcément, si l'évêque lui-même eh bien, a des tendances homosexuelles, ça semble compliqué pour lui de dénoncer un de ses complices. Donc il y a eu des cas comme ça, où les gens se tiennent entre eux, parce que s'il y en a un qui parle, eh ben, il va dénoncer tous les autres. Donc on est voilà, dans ce type de problème-là, et donc il y a eu une culture du secret sur la question. Mais la culture du secret, qu'il faut condamner, n'est pas la cause de ces actes. C'est un facilitateur. C'est quelque chose qui vient se rajouter. La cause des actes, c'est d'abord justement l'effacement moral général qui touche certains prêtres qui ont été formés dans une ambiance de sexualisme général. Alors, la chasteté, même pour des époux, et plus encore la continence sacerdotale hein, pour un prêtre qui est dans le monde, c'est un combat qui est long. Et c'est un combat qui est impossible à gagner sans l'aide de Dieu. Surtout dans les sollicitations actuelles du monde. Quand vous vivez au XVIIe siècle et qu'il n'y a pas un centimètre d'indécence autour de vous, garder la chasteté, c'est plus facile. C'est pas très facile, mais c'est plus facile. Quand vous êtes seul dans votre presbytère, que vous n'avez pas forcément le moral, qu'en plus de ça, vous n'avez pas reçu une formation spirituelle et humaine très poussée au séminaire, parce qu'il y avait d'énormes carences sur ces questions-là, et que vous allumez la télé ou que vous lancez votre ordinateur, c'est beaucoup plus difficile hein, de résister aux tentations dans le domaine. Donc, la chasteté, c'est un combat qui peut mener un prêtre, mais je pense aussi des époux, à un martyr du quotidien. Pour le prêtre, évidemment, pour les époux aussi, hein, certains d'entre vous, plus tard, seront amenés à se marier, je pense. Mais, ben, voilà, quand il faut faire la régulation naturelle des naissances, que le cycle de votre épouse n'est pas forcément très très clair, que vous ne savez pas trop quand est-ce qu'elle est fertile et qu'elle ne l'est pas, hein, et que, ben, je sais pas, moi, ça pourrait mettre sa vie en danger, ce qui arrive, pour des raisons médicales, on ne peut plus avoir d'enfant, ben, c'est la continence pour le mari, et pour la mère, pour l'épouse, évidemment. Hein. Donc ça peut être compliqué. Le père me disait, voilà, il y a des cas d'époux... en confessionnal, ils pleurent parce que c'est dur de tenir la chasteté, encore plus dans notre monde où il y a des milliards de tentations, où tout est très sexualisé. Donc c'est dur pour des hommes mariés, c'est dur aussi, et encore plus pour des prêtres s'ils ne sont pas correctement préparés. Vient se greffer sur ça, eh bien, le problème de l'homosexualité dans l'Église, qui là aussi donne un caractère particulier à la question de la pédophilie. Vous savez que dans le domaine civil, la majorité des actes pédophiles sont des actes hétérosexuels, à 70%. Dans l'Église, on est en grande majorité sur des actes de pédophilie homosexuels, donc à 80% en gros. Donc c'est un cas particulier, et là encore, Le règlement du problème passe forcément par le retour à l'enseignement chrétien sur ces questions-là de morale, parce que c'est pas en disant bah, finalement on abandonne toute la morale, faites ce que vous voulez et puis tout se passera bien, que les gens vont améliorer justement leur situation morale. Donc ça me semble compliqué de raisonner comme ça. Alors il n'y a pas de lien direct entre l'homosexualité et la pédophilie, enfin, je pense que c'est faux de dire ça, mais une déviance sexuelle en amène facilement à une autre. Oui.
C'est vrai que le problème, c'est qu'il y a la pédophilie au sens juridique, donc en France, c'est jusqu'à 15 ans, etc. Mais après, il y a le sens naturel, c'est-à-dire qu'un enfant qui devient adulte, il passe en vie traditionnelle, et en fait, ça brouille les pistes, et ayant des caractères de l'adulte qui viennent, c'est plus de l'effet pédophilie au sens naturel que la pédophilie.
Alors, je suis bien d'accord avec ça. 60 à 70% des cas de ce qu'on appelle la pédophilie sont en fait ce qu'on appelle de l'éphébophilie. Mais franchement, ça ne règle pas trop notre problème, justement parce que dans 80% des cas, c'est des cas d'homosexualité. Si c'était de l'hétérosexualité, on dirait, bon, faiblesse humaine. Une jeune fille de 15 ou 16 ans, elle est belle, et on peut tomber amoureux d'elle, quel que soit son âge. On peut trouver ça glauque. Mais objectivement, des mariages avec 30 ans d'écart, ça existe. On a un président, après tout, dans ce cas-là. Non, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ça a toujours existé, donc c'est pas ça le problème. Mais bon, on est quand même dans 30-40% des cas, dans des cas vraiment de pédophilie, du gros moins de 12 ans, quoi. Et puis, dans 80% des cas, c'est des cas d'homosexualité. Donc, il y a quand même de véritables perversions derrière, objectivement. Alors, j'en arrive à ma deuxième partie. Que devons-nous faire? Déjà, ça c'est la partie positive, hein, c'est la partie où on en ressort un peu plus joyeux. Parce que jusqu'ici, c'est quand même bien déprimant, hein, ce que je vous ai raconté. Hein. La première chose, c'est que il faut réaffirmer l'honneur de nos prêtres. Il y a quand même une terrible injustice qui leur est faite. Ils sont plus de 400 000 dans le monde, 404 000, je crois, au dernier décompte. Et ils pratiquent leur ministère dans l'abnégation et le don de soi. Ces prêtres diocésains, si on parle de l'Europe, que nous critiquons souvent, parce que nous les trouvons faibles doctrinalement, ou bien liturgiquement à côté de la plaque. Ces évêques dont nous avons tendance à nous plaindre, avec raison, parfois, mais quand même. Les prêtres africains ou asiatiques dont l'accent nous fait bien rire. Tous ces prêtres, eh bien, ils font le don de leur vie dans le célibat. Certains sont tièdes, d'autres sont saints, mais tous font fondamentalement ce don chaque jour. Et dans la fidélité, dans l'immense, l'écrasante majorité des cas. Et c'est pas simple d'être prêtre dans notre monde. Le prêtre, il doit affronter dans la solitude les attaques du démon contre la chasteté, dans un monde qui, comme je vous l'ai dit, respire la luxure comme on respire l'air pur des montagnes. Le prêtre doit affronter le mépris ou l'indifférence de ceux qu'il doit amener à Dieu. Quand je suis curé d'une paroisse, bah les 30 000 personnes de ma paroisse, j'en suis responsable. Il y en a 15 qui viennent à la messe, et les autres, qui n'ont rien à fiche de ce que je raconte, et qui limite me méprisent ou me détestent. C'est pas évident. Le prêtre doit affronter la misère économique. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne fait pas carrière dans la prêtrise pour le salaire. Et le prêtre doit affronter dans nos pays, particulièrement dans nos pays athées, il faut bien le dire, la tiédeur infâme des chrétiens. Parce que même les 15 qui viennent à l'église expliquent au prêtre que non, ils n'ont pas besoin d'aller se confesser, nous on ne fait pas de péché. La preuve, regardez, on vient à l'église. C'est authentique. Je discutais avec mon curé qui me disait, non mais c'est pas compliqué, dans la paroisse, il y en a 5 qui se confessent. Il y a moi et mon épouse, ça fait 2. Le servant de messe, hein, ça fait 3. Et 2 petites vieilles catéchistes. Et encore, une des 2 catéchistes, je suis pas sûr. Je crois que c'est... Oui. La secrétaire a expliqué au curé que justement, que c'était pas la peine de se confesser parce qu'elle faisait jamais de péché. Donc, vous imaginez la tiédeur que ça représente. Et la difficulté pour un prêtre de vivre là-dedans.
Vous êtes quoi dans votre paroisse?
La question est vague. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
De manière générale, à la messe le dimanche?
Je ne sais pas. D'une part, parce que je suis un peu un gyrovague de la messe. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si j'allais tous les dimanches à la paroisse. C'est-à-dire que je vais parfois à Orange, à la messe traditionnelle, parfois au Barou, parfois dans la paroisse. Mais en gros, ça va de 15 à 60, les bons jours.
200 polaires, on est d'accord.
Donc voilà, c'est compliqué. Et maintenant, à toutes ces difficultés que le sacerdoce représente, tout ce don quotidien, eh bien, il y a en plus l'infamie de devoir supporter le regard lié à ces affaires de pédophilie. C'est quand même une situation qui est complètement injuste et qui devrait nous révolter. Et qui, je pense, nous révolte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, après cet honneur qu'il faut rendre à nos prêtres, je pense qu'il faut rendre l'honneur à l'enseignement de l'Église. La crise dans laquelle nous débattons n'existerait pas si l'Église était entendue et écoutée. Entendue et écoutée par nous, par les clercs, par la société. L'éducation des enfants à la chasteté. La modestie des comportements et des habillements, sans crainte de se faire traiter de pudibond. La retenue du langage, le refus absolu de la vulgarité. Un gros mot, dans 99% des cas, c'est un caractère sexuel. Ça évoque des choses qui ne doivent même pas faire l'objet de conversation, c'est saint Paul qui dit ça, de ces questions-là qui n'en soient même pas objet entre vous. Donc retenez votre langage. C'est pas du snobisme, c'est pas de la bourgeoisie mal placée. C'est que ce que vous dites, c'est aussi vous, ça sort de votre cœur. Donc faire attention à son langage, évidemment pour la vulgarité, mais aussi les allusions basses, les sous-entendus rigolos. On passe notre temps. C'est un peu rapide de dire ça, mais il y a plein de gens qui passent leur temps à ça. Je ne pense pas qu'on soit tous très nets sur ces questions-là. Le petit sourire en coin quand on pense qu'il y a une allusion un peu grivoise, un peu en dessous de la ceinture. Il faut sortir ça de nous. Ça n'est pas bon, ça salit les âmes. Parce que nous, c'est peut-être une toute petite allusion grivoise, on a le petit sourire en coin, mais la personne avec laquelle on est, comment sait-on ce qu'il y a dans son âme? On n'en sait rien. Donc, il y a une responsabilité là forte. Il faut revenir à ces éléments de modestie. L'interdiction de l'indécence, la garde du regard. Le regard posé sur les gens, sur l'autre sexe, c'est très très important. La fidélité, évidemment, des époux. Vous n'en êtes pas encore là, mais vous y viendrez. Qui, je rappelle, va au-delà de l'absence de tromperie physique, hein. C'est le contrôle du regard, de la pensée, des conversations, de la situation dans laquelle je vais me trouver. C'est tout ça. Évidemment, la dissolubilité du mariage et le bannissement de l'amour libre. Je pense que tout ça, vous le savez. Hein, mais concrètement, il s'agit de réinstaurer une ambiance chrétienne, une ambiance de pureté. Parce que notre société... Si ces actes existent, c'est justement parce que cette ambiance a disparu, qu'elle est considérée comme ringarde. Soyez ringard, n'hésitez pas. Le ciel vous le rendra. De toute façon, qu'avez-vous à faire de l'admiration de ceux qui ne sont pas chrétiens? Vous n'en avez rien à faire. S'il s'agit de mettre sous le boisseau votre foi pour obtenir leur admiration, qu'est-ce que ça vous apportera? Rien du tout. Parfois, vous n'aurez pas leur admiration, vous aurez leur mépris. Mais c'est ça, la croix. Il n'y a pas moyen d'y échapper, de toute façon. Voilà, donc, une solution, je pense, importante, c'est rendre honneur, justement, à cet enseignement de l'Église, dans le plus petit détail. Et j'en viens au dernier point. Je ne sais pas quelle heure il est, mais ça fait une heure que je parle. L'Église est celle qui nous rend saints. Et c'est la sainteté, d'abord la nôtre, qui est la solution. Alors, vous savez ce que c'est qu'être saint? Écoutez le conférencier, par exemple. Être intime avec Dieu, en être proche, savourer sa présence, goûter ses paroles, vivre avec lui, comme lui, et pour lui. Et tout cela, c'est l'Église qui nous le donne, et quasi exclusivement par le ministère des prêtres. au 19e siècle, quelle est la personne qui a le plus terrorisé le diable? Le curé d'Ars. Le curé d'Ars. Au 20e siècle, si je devais prendre un prêtre, le padre Pio. La première solution à tout ça, c'est la sainteté. Le saint curé d'Ars, il n'a pas fait de grandes déclarations sur la réforme de l'Église. Il n'a pas conseillé le pape. Il n'a pas écrit de grands et retentissants ouvrages de théologie. Il a eu du mal à apprendre son latin. C'était un très bon théologien, mais il a eu du mal à apprendre son latin. Ce n'était pas non plus une pointure intellectuelle. Mais il était saint et il rendait Dieu visible. Et quand il voit Dieu, le monde rend les armes et adore. Donc nous, notre objectif, c'est rendre Dieu visible. Et pour ça, il faut qu'on soit saint. Alors vous êtes au chapitre Sainte-Madeleine, vous êtes à l'aube de votre vie. Vous connaissez peut-être pas encore votre vocation, votre mission sur la terre. Ne vous laissez pas distraire par les cris du monde qui veulent abattre l'Église. Fixez votre regard et votre attention plus haut. Formez-vous, priez, préservez votre pureté d'âme et de corps, imitez le Christ et sa mère. Ne vous formez pas un esprit de critique ou de revendication avant de vous former une âme de sagesse et d'adoration. On aura tous un rôle à jouer sur terre, mais sans l'aide de Dieu, ça ne sert à rien. Sans l'inspiration de l'Esprit Saint, ça ne porte pas de fruits. Donc, les problèmes dans l'Église, ils sont réels, ils sont certains. Mais j'ai presque envie de vous dire, presque, parce que ce n'est pas tout à fait vrai, c'est pas notre problème. Alors ça l'est parce qu'on est touché par ça, parce que notre cœur est meurtri, parce que le visage du Christ est défiguré. Mais ce n'est pas nous qui allons prendre l'étendard là maintenant comme ça tout de suite, aller au Vatican, taper le poing sur la table et dire « maintenant vous allez l'écouter, ça va, allez ». Quelle est la seule arme qu'on a? C'est notre sainteté. C'est la prière, effectivement. Donc, commençons par ça. On a tellement vite fait de critiquer. Depuis que je suis au chapitre Sainte-Madeleine, si vous saviez comme j'ai critiqué tout. Les évêques, les prêtres, mon entourage, tout le monde. Et puis au final, on se rend compte que, est-ce que j'ai apporté le moindre bien par tout ça? Non. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire les choses qui ne vont pas. Mais derrière, après, on se met à genoux et on demande à Dieu. Et avec tout ça, eh bien, il nous donnera la victoire. Thank you.